France Musique.
Musique et moi.
Hervé Le Tellier.
Priscille Lafitte. France Musique.
Au milieu de notre salon, trônait un quart de queue, noir, ébène, un chimel. C'était moins un instrument qu'une encombrante décoration, sombre et laquée, qui occupait mathématiquement un 20e au bas mot de la surface totale de l'appartement, pourcentage suffisant pour démontrer aux rares visiteurs la culture musicale qui nous habitait. Mais mon beau-père en jouait fort peu, sauf de temps en temps ce satané concerto numéro 2 de Rachmaninov. Pour tout dire, Guy ne jouait que le concerto numéro 2 de Rachmaninov, pratiquant trop peu, hélas, pour maintenir d'autres morceaux en mémoire. Il n'était pas bien grand, ses mains étaient en proportion et il arpégeait, c'est certain. Il avait dû d'ailleurs le jouer plutôt bien, car il lui restait des mesures fugaces et brillantes. Il le joua de moins en moins jusqu'au moment où son plaisir fut noyé sous les fausses notes et où il se résigna à ne plus le jouer du tout. Il continua néanmoins à l'écouter, dans l'interprétation de Sviatoslav Richter, aux longues montées dramatiques, hypnotiques, ou dans celle de Raphaël Orozco, ample et généreuse, trop même, selon certains. Voire celle de Vladimir Ashkenazy, formidable d'intensité, mais où le musicien semble parfois oublier qu'il existe un orchestre. Peu importe, l'ai-je dit, mon beau-père aimait ce concerto, au point d'avoir confié à ma mère qu'il souhaiterait, devant l'imminence du grand départ, allongé sur son lit de mort, l'écouter une dernière fois. C'est un 2 avril au soir qu'il entre à l'hôpital pour ce qui sera diagnostiqué comme une hémorragie intestinale. Le 4 au matin, il est intubé, fatigué mais conscient. Le corps médical cherche la cause et un traitement efficace, sans être encore inquiet sur les suites et réserve tout pronostic. Rien n'est plus simple que la logique hospitalière, à chaque jour suffit sa peine. Dans l'après-midi, je rejoins ma mère à Bichat. Elle est assise à côté du lit de son mari, son livre de Sudoku sur les genoux. Mon beau-père a les yeux fermés et un casque sur les oreilles. Elle me dit aussitôt, et sa voix mêle le tragique de circonstances à la fierté du devoir accompli, je lui ai fait écouter le concerto numéro 2 de Rachmaninov. Guy, s'il était conscient à ce moment-là, a dû penser que c'était un peu prématuré, voire une preuve d'impatience. Mais sur le moyen terme, ma mère a fini par avoir eu raison.
Thank you.
Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Merci de vous prêter au jeu de Musique et moi ce matin. Vous êtes écrivain, président de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, autrement dit un cercle d'auteurs qui aiment écrire en se fixant des contraintes. Et le jeu radiophonique ce matin sera d'établir des connexions entre écriture de texte et écriture musicale. Nous allons tenter de cerner votre rapport à la musicalité des phrases, à la rythmique des mots, cette pulsation intérieure qui vous a poussé à écrire des textes. On se souvient de vos jeux d'écriture lors des grandes années des Papous dans la tête sur France Culture. Vous avez rédigé des nouvelles, des livrets d'opéra, nous l'entendrons un peu plus tard, et puis des romans. Le dernier en date, intitulé L'Anomalie, a reçu le prix Goncourt 2020. Mais c'est avec un texte plus personnel, plus autobiographique, paru en 2017, que vous avez décidé d'ouvrir cette émission, une lecture tirée de « Toutes les familles heureuses », texte dans lequel vous parlez de vos parents et notamment d'un beau-père féru de musique qui cherchait à maîtriser ce condensé de technicité et de sensualité qu'est le deuxième concerto de Rachmaninov. Est-ce que vous parvenez ce matin à écouter autrement ce morceau de musique en faisant abstraction de ce contexte familial ?
Oui, complètement. Ça faisait partie effectivement des musiques que j'entendais lorsque j'étais enfant. Et puis assez vite, je me suis tourné vers l'écoute de disques. Et j'ai oublié un petit peu l'originalité du doigté de mon beau-père, qui était un peu hasardeux vers la fin. Enfin, il jouait aussi Debussy, il jouait aussi Liszt, il jouait aussi un peu de jazz et de ragtime même, parfois, ça lui arrivait. Et je suis rentré dans la musique aussi par ce biais-là. C'était pas une imprégnation, parce que c'est très irrégulier, c'était pas quelqu'un qui jouait tous les jours, mais ça lui arrivait de le faire.
Et que pensez-vous que votre beau-père recherchait dans cette partition-ci ?
Dans celle-ci,
ouais.
C'est effectivement bizarre qu'il puisse jouer une partition qui exige un orchestre seul. Je pense qu'il cherchait à retrouver il y a une technicité telle dans ce morceau que je pense qu'il était à la recherche d'un savoir-faire ancien qu'il perdait petit à petit et qu'il voulait, avec un morceau virtuose, essayer en permanence de s'égaler et peu à peu ça partait. Il faut dire aussi que, comme on le sait, Rachmaninov a le syndrome de Marfan, qui est un syndrome de déformation tout conjonctif, et donc ça lui permettait d'avoir 30 cm entre le bout de l'auriculaire et le bout du pouce, ce que mon père n'avait pas du tout. Mon père n'avait pas du tout ça, donc ça devait un peu l'handicaper.
Est-ce que vous avez joué d'un instrument ? Vous avez joué de ce fameux quart de queue à Schimmel dans votre...
Oui, enfin, disons que j'ai posé mes doigts dessus. J'ai appris à jouer du piano et puis assez rapidement abandonné pour me tourner vers un instrument infiniment plus mobile qu'était la guitare, que je pouvais emmener partout avec moi et dont la maîtrise était aussi plus immédiate. Au bout d'un mois, un mois et demi de guitare, on arrive à plaquer quelques accords alors qu'il faut une bonne année pour arriver à avoir une satisfaction au piano. Et j'étais un enfant impatient, donc la guitare m'est venue plus vite.
Et quel répertoire pour vous ?
Oh, moi, je faisais du folk, très clairement. Ouais. Au début, j'avais une guitare classique. Et assez vite, je me suis acheté une Ibanaise. Et voir une 12 cordes, à un moment donné, c'est dire à quel point j'aimais le folk.
Quelles autres musiques sont associées à votre enfance, d'ailleurs ?
Beaucoup de musiques populaires. Je me souviens que ma mère chantait, par exemple, des chansons que chantaient les sœurs Étienne. Elle le chantait avec sa sœur. Donc ça, c'est indubitablement des chansons des années 50 qui sont vraiment gravées, même si ma mère les chantait 20 ans plus tard. Hein. J'ai pas 75 ans. Donc ces musiques-là, je les conserve encore en mémoire. Et puis aussi peut-être des musiques qui sont Brassens, qui sont Reggiani, donc des chansons. Pas mal de chansons écrites d'ailleurs pour Piaf aussi. Donc ce sont des musiques que j'ai retrouvées assez récemment, finalement, dans les 10 dernières années. J'ai commencé à écouter ces musiques-là et à leur trouver un intérêt qui m'échappait un peu à l'époque. Je n'aimais pas du tout Brassens, alors qu'en fait, c'est un formidable musicien. Je n'étais pas un grand fanatique non plus de musique de cette époque-là, alors que...
Thank you.
Hervé Letellier, vous avez demandé à écouter l'air de Chérubin dans les Noces de Figaro, la version chantée par Frederica von Stadt. Est-ce que ce chérubin qui papillonne d'un amour à l'autre, qui est porté par le vent du désir, vous touche particulièrement? Est-ce qu'il représente quelqu'un de votre enfance d'ailleurs?
Non, je ne pense pas qu'il soit représentatif de mon enfance. Ma mère était plutôt quelqu'un qui fuyait l'amour. J'ai découvert Mozart tardivement, c'est-à-dire... C'était pas quelque chose qu'on écoutait beaucoup à la maison, donc peut-être à partir de 18-20 ans, quand je suis parti, j'ai commencé à écouter beaucoup Mozart, beaucoup les Noces. C'était, je crois que c'est mon opéra préféré de Mozart, avec peut-être la flûte enchantée, mais pour la technicité de la flûte. Mais les Noces, c'est extraordinaire. Et l'air de Cherubino, c'est un de mes airs préférés dans tout cet opéra.
Vous arrivez à identifier pourquoi ?
Je pense que c'est à la fois... La mélodie, évidemment, et aussi ce que dit le livret, c'est-à-dire un amour de l'amour, quoi. Les données mi fa palpitar, je trouvais ça très beau, et ça correspond à... C'est moins un amour qui papillonne d'un amour à un autre qu'un amour qui est permanent. C'est moins un papillonnage qu'une sorte de projection successive du désir amoureux. Et... Je trouve que c'est une assez belle définition d'une des formes de désir chez les hommes et les femmes, qui est de se projeter en permanence sur quelqu'un. Et j'ai toujours trouvé que il y avait un sens de la définition amoureuse, justement, qui était très 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 puissant et pré-freudien, là, qui est très cette idée que justement la projection existe, le transfert existe et qu'on a besoin d'amour. J'ai toujours trouvé ça magnifique chez Mozart, cette ère-là en particulier.
Donc votre mère, vous nous disiez, chantait ou...
Oui, elle chantait. Jeu, oui.
Mais pas du tout ce répertoire-là.
Non, c'était trop technique.
Ouais.
C'était
elle avait quelle tessiture?
Oh, c'était une soprano comme sa sœur et elle chantait plutôt des duos. Elle s'était très portée sur des musiques des années 50, comme les sœurs Étienne, justement. Mmh. Elles auraient adoré être les sœurs Michel. Voilà. Mais ce n'était pas possible.
Donc ce n'est pas elle qui vous a introduit à l'opéra?
Non, pas du tout. Non, ça s'est fait...
Ça s'est fait seul?
Ça s'est fait, je pense, en étant chez des amis chez qui je vivais quand j'avais 18 ans et chez qui j'ai découvert... Alors, peut-être d'ailleurs moins Mozart au début que peut-être l'opéra italien, Verdi. Et ensuite, j'ai découvert Mozart un petit peu... vraiment tardivement, enfin, ce qui n'est pas du tout... la plupart des enfants peuvent découvrir Mozart à 5 ans ou à 6 ans parce qu'on leur fait écouter en leur disant « Écoute, il a composé ça quand il avait 6 ans ». C'était pas mon cas.
Thank you.
Nous avons entendu l'interprétation de David Bismuth, mais est-ce que le menuet, la suite pour piano numéro 1 de Handel, faisait également partie de ce répertoire d'enfance?
Oui, ça en faisait partie, sans que je sache, à l'époque, c'était du Handel. C'est-à-dire que ça fait partie de ces choses qu'on écoute parce que c'est joué à la maison et ça s'imprègne. Et plus tard, on le redécouvre dans une interprétation qui ressemble et on se dit « Ah, mais c'était du Handel que j'écoutais ». Ça m'est souvent arrivé d'ailleurs, hein, par exemple, le duo des fleurs, qui fait partie de mon enfance, parce que je l'écoutais parfois chez mon beau-père. C'était un duo dont j'ignorais tout à fait d'où il venait, ce qu'il était, que j'aimais beaucoup. Mais j'avais pas une curiosité d'enfant pour savoir qui c'était.
Pour l'identifier.
Voilà, l'identifier, c'était difficile. Donc après, j'ai l'acmé et tout ça, voilà. Mais c'était quelque chose qui baignait l'atmosphère familiale, sans pour autant qu'il y ait une véritable identification. C'est-à-dire que la culture musicale, il fallait se la procurer soi-même. C'était pas quelque chose qui vous était dit, tiens, tu vas écouter... un menuet de Handel.
Lors des émissions Les Papous dans la tête sur France Culture, il me semble que vous convoquez également une pianiste.
Oui.
Gabrielle Godard.
Oui, souvent.
Et
oui.
Elle accompagnait certains dans des versions chantées aussi de leurs textes.
Oui.
Elle jouait des interludes aussi.
Aussi.
Pendant que vous écriviez vos textes, particulièrement lors des émissions publiques. Est-ce que le piano a comme fonction de meubler l'attente ? Par exemple, lors des Papous, ou est-ce que ces interludes sont propices à la concentration ?
Aux Papous, la vocation du chant était de montrer une capacité qu'on pouvait avoir à composer une chanson à partir de mots donnés du public, par exemple, dans un délai extrêmement court. Donc c'était une façon de montrer la gymnastique que ça exigeait. Et ensuite, on n'exigeait pas du tout, en revanche, une qualité de restitution extraordinaire. Et presque, on peut dire que plus c'était mauvais, plus c'était drôle. Et comme le but de l'émission était quand même de faire sourire le public, on n'hésitait pas à chanter comme on chante, c'est-à-dire avec beaucoup d'approximation.
Non, mais pour le piano seul.
Le piano seul, moi j'arrive pas à écrire, par exemple, en écoutant de la musique. Donc ça aide pas du tout à ma concentration. Ça permet parfois, lorsque on est justement en train de composer en public, à s'éloigner du brouhaha. Mais quand je suis seul chez moi, j'ai besoin d'un silence.
Oui.
C'est compliqué d'écrire, de composer des phrases si quelque chose vient superposer, si un autre rythme que le vôtre vient remplacer votre propre travail. Donc, à la limite, on pourrait dire que les variations Goldberg de Bach sont une forme de silence, mais c'est tout. Si on met autre chose, c'est compliqué. Beethoven, j'y arriverai jamais. Wagner, n'en parlons pas. Enfin,
on l'écoutera voilà. Un peu plus tard, on en reparlera.
Thank you.
C'est une version enregistrée par Paul Tortelier de cette suite numéro 5 en do mineur BW 1011 de Jean-Sébastien Bach. Nous entendions le prélude.
France Musique. Priscille Lafitte. Musique et moi.
L'auteur oulipien Hervé Le Tellier, l'invité de Musique et moi ce matin. Vous savez que Jean-Sébastien Bach était le plus oulipien, ou plutôt le plus oumupien, des compositeurs.
Ouais.
Puisque bon, toute musique est contrainte un peu par nature, particulièrement classique, surtout quand on parle de contrepoint. Mais les jeux d'écriture étaient flagrants chez Bach, pas tant là, dans cette suite, dans les suites pour violoncelle, mais dans d'autres, notamment
dans l'offre musicale. Le jeu avec BACH.
Exactement.
Bien sûr.
Est-ce que, en écoutant Bach, vous avez la même écoute analytique de jeu que lorsque vous allez lire un texte?
Non.
Contraint.
Non, parce que j'ai pas du tout la culture musicale suffisante pour voir la technicité et le jeu. Je suis incapable de voir qu'une partition peut se retourner, par exemple, pour devenir une autre. Voilà. Quand on retourne une partition, c'est aussi du Bach.
Donc, dans l'offrande musicale, oui.
C'est très net. Oui. Il y a un très beau livre qui s'appelle Gödel et Scherbach, qui analyse justement les ponts qui existent entre Gödel, le pavage de Escher, et puis le travail de Bach sur la variation, sur justement les inversions, sur le rythmique, enfin, qui sont toutes des formes différentes et appliquées à différents lieux de l'art, des mêmes techniques. Puisque par définition, les expo sont, le X vient combler toutes les formes d'art, l'architecture, la musique, la cuisine même parfois. Mais oui, c'est incontestablement le plus oumupien des musiciens.
Des musiciens. Alors, avec quelles oreilles écoutez-vous Bach?
Avec les oreilles de quelqu'un qui, parfois, a envie de pouvoir travailler dans un silence musical. Voilà. Pour moi, Bach peut être une forme de silence. Surtout, enfin, faut éviter les interprétations par Gould où il chante dessus, mais surtout les variations, le clavecin vert tempéré aussi. Mais une fois de plus, j'ai du mal à travailler avec une musique derrière moi. Donc Bach, c'est quelqu'un que je vais écouter en faisant la cuisine ou en me promenant chez moi, ou en n'ayant rien à faire que lire. Je peux lire en écoutant, par contre, avec le danger que ça va colorer ma lecture. Et donc, faire le même effet que colorer mon écriture, attribuer des sonorités, des couleurs qui ne sont pas présentes dans le texte, et finalement, soit le détruire, soit l'améliorer, soit le transformer, mais ça ne sera pas le texte. Donc il y a toujours un problème dans la présence d'une bande-son sur un texte, même si ça m'arrive de penser que moi j'écris avec une bande-son derrière un chapitre, mais cette bande-son elle est personnelle.
Et vous l'écoutez, cette bande-son, avant d'écrire?
Oui, ou je l'ai en tête, ou je sais qu'elle est là. Je ne vais pas forcément écouter, par exemple, un menuet avant d'écrire un chapitre, ou même du Elton John. mais je sais que le chapitre fait référence, dans mon esprit, à cette musique-là.
Il y a une réminiscence musicale dans votre tête.
Oui. Et puis, parfois, ça m'est même arrivé d'avoir l'envie de dire au lecteur... Lis ce chapitre en écoutant ceci, cette idée que je l'ai composé dans cet esprit-là, et par exemple dans écouter du fado avant de lire un chapitre donné de Electrico W qui se passe au Portugal, à Manuel Rodriguez, enfin voilà, ou de dire qu'il serait d'assez bon ton d'écouter justement Shostakovich pour lire tel chapitre. Ça m'est déjà arrivé de penser ça.
Alors, en parlant de Mupo, l'ouvroir à musique potentielle, frère donc de l'oulipo, un musicien se revendique de cette mouvance, de ces jeux d'écriture, c'est l'Américain Mike Solomon.
Ich fische,
Aimé écrire les paroles de cette chanson.
Oui, en plus, c'est assez rapide. Hein. C'est relou la fille qui fait chier grave, quoi et voilà.
Alors quoi, oui.
Alors quoi et voilà.
Et alors quoi et voilà. Marie Perbost, Elsa Dreissig, Mike Solomon, Ryan Vailey et Eudes Père, donc de ouais. Sacrés interprètes pour ce morceau, Relou la fille de Mike Solomon. Et regardez plus près, j'annonce Mike Solomon comme compositeur, mais on dirait qu'il y a un certain Jacques le branleur du XVIe siècle qui oui. S'en est mêlé. Et quelle contrainte, selon vous, s'est fixé Mike Solomon, alias Jacques le branleur ?
Oh, Mike se fixe des contraintes de pastiche, souvent. Et puis, sa virtuosité est telle qu'il peut s'emparer de n'importe quoi. Il a fait un magnifique Magicien d'Oz, il y a quelques années, où il reprend des fragments mélodiques pour les réinterpréter à sa manière. Et c'est extraordinaire. C'est une sorte d'opéra... une sorte de paracatsu, version Magicien d'Oz, et c'est vraiment merveilleux. Les techniques que s'appliquent les Oulipiens, c'est toujours un peu celles qui sont dérivées de l'Oulipo, c'est-à-dire se priver d'une lettre, déplacer un tempo, faire une partition complémentaire dans les deux sens, faire du pastiche,
parce que
le pastiche
oui.
Fait partie des contraintes.
Là, toute évidence, c'est un pastiche, oui.
Apparemment, oui. Je pense que Jacques le branleur n'existe pas.
Ah bon?
Donc la date de mort est formidable, puisque... on ne connaît pas la date de mort exacte, et il fait disparaître le chiffre des dizaines avec un point d'interrogation, comme si le chiffre de l'unité était connu.
Donc, il y a un doute permis.
Voilà, c'est ça, le doute est permis. Donc il est mort en 1500 ou 1500 X3.
Je crois que vous avez aimé la musique baroque, vous.
Oui, j'ai beaucoup aimé.
À un certain moment de l'adolescence.
Ouais.
Vous auriez rêvé d'écrire un texte aussi vulgaire sur une musique aussi raffinée, peut-être, à l'époque.
Vu comme vulgaire, non, grossier. Toujours grossier, jamais vulgaire. Oui, j'aurais adoré faire ça. Le travail est minimal, là. Mais ce qui est formidable, c'est tout de même, effectivement, les deux sopranes sont merveilleuses, Elsa Dreissig et Marie Perbos. Elles emmènent la chose très très haut. Et il y a ce décalage qui effectivement est très amusant. J'ai déjà fait écouter à des amis étrangers qui ne voient pas du tout sur la drôlerie dans l'affaire et qui me demandent mais qui est ce musicien que je ne connais pas.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à la musique baroque à l'adolescence?
Je crois que c'est Purcell. Et parfois, ça vient par des voix tout à fait classique, c'est-à-dire on écoute quelque chose qui n'a rien à voir avec on écoute Klaus Nomi, voilà, et dans un disque de Klaus Nomi, il y a la Cold Song de Purcell, et on se dit mais oh, c'est formidable, et on découvre que Purcell existe. Et ça, je crois que ça s'est passé comme ça pour moi. Je suis arrivé à Purcell par quelque chose qui est évidemment une très belle interprétation par ailleurs, surtout que celle de Klaus Nomi est vraiment très belle. Mais ce n'est pas qu'un musicien baroque. Enfin, il a une œuvre autonome. Et après, je suis arrivé à Purcell, aux Arts Florissants, à William Christie, à travers ça.
Donc vous avez un goût pour les contre-ténors, parce que Mike Solomon est contre-ténor.
Absolument.
On va entendre à l'instant l'interprétation de Philippe Jaworski.
Bien sûr, j'aime beaucoup les contre-ténors. Je trouve ça absolument une technique merveilleuse.
Oh,
Philippe Jarowski, accompagné de Yoko Nomura au clavecin dans Music for a Wild Purcell. Comment est-ce que vous vous attachez à une musique, Hervé Le Tellier? Vous nous parliez des différentes musiques qui peuvent jalonner votre écriture ou rester dans un coin de mémoire et revenir se manifester.
Oui, ça vient d'une surprise en général. C'est-à-dire qu'il faut que la musique que je découvre soit en adéquation, soit en contraste avec ce que je vis, et qu'elle soit une surprise. Toutes les musiques qui, à un moment donné, m'ont frappé, qui m'ont marqué, Satie, Debussy, enfin, ont été à un moment des surprises. Quand j'ai découvert les gymnopésies, je les ai découvert à un moment tout à fait inadapté. C'était un enterrement. Et évidemment, ça, à la fois, au début, elles sont associées aux souvenirs, et puis, par chance, on se libère du souvenir marquant qui l'accompagne pour en faire un objet mémoriel tout à fait dissocié du trauma de départ. Et pour les gymnopédies, par exemple, je peux les écouter sans avoir du tout maintenant la moindre émotion qui serait une émotion de mémoriel. Donc c'est quand même très étonnant qu'il puisse se passer ce phénomène de distanciation par rapport à sa naissance.
Vous avez écrit des chansons en anglais dans L'Anomalie, si je ne me trompe pas. Ouais. Avec des rimes, avec une rythmique. Oui, vous aviez une musique en tête, par exemple?
Non, j'ai composé sans rythmique. Parfois, c'est vraiment pratique, effectivement, de se mettre une musique des Beatles ou des Stones et puis de se dire, je vais composer autre chose sur I Can't Get No Satisfaction. Mais en l'occurrence, là, non. Je me suis laissé aller à une rythmique de poésie en me disant que ça pouvait fonctionner avec... qu'un musicien pouvait composer dessus. Un peu comme, par exemple, si on prend un texte de Dylan Thomas ou un texte de Yeats, on voit très bien qu'on peut composer une musique sur un texte pareil. Donc ça pose pas de problème. Je suis parti vraiment d'une notion poétique pour proposer un résultat qui peut être une chanson.
Est-ce que vous avez plus de facilité à écrire une chanson en anglais ou en français? C'est la question que je me posais. Parce que vous avez d'abord écrit en anglais, si je comprends bien ces quelques strophes.
Oui,
je les ai. Et que vous avez traduit après?
Oui, j'ai traduit une chanson en anglais. Enfin, j'ai une enfance qui est une enfance qui se passe en Angleterre. Donc, j'ai pas un problème majeur avec la grammaire anglaise. Je compose assez naturellement dans cette langue.
Est-ce qu'elle sonne mieux?
Je crains que oui. Je crains qu'elle sonne. Enfin, c'est plus simple de composer en anglais pour les diphtongues, pour la manière dont les mots s'arrêtent. C'est plus flou, c'est plus musical parfois en anglais qu'en français. C'est pas vrai pour tout, mais on voit bien que les opéras italiens fonctionnent remarquablement bien. Mais en revanche, pour la chanson, pour les instruments dont on est doté aujourd'hui, l'anglais s'y prête assez bien. Donc oui, ça, pour certaines choses, l'anglais est bien utile. Je comprends qu'assez naturellement qu'on puisse composer en anglais. À cause de ces diphtongues qui permettent on peut pas faire comme Rameau, indéfiniment. La diphtongue est là pour nous aider.
Vous avez carrément composé pour l'opéra.
Oui.
Et vous vous êtes associé pour cela avec François Ribach.
Citron, je perds une vie sous un boulon.
La Terre est tellement minuscule, petite comme une virgule. La Terre n'est qu'une particule dans l'univers, une pilule. Chacun gravite sur son orbite, et c'est ta qui va le plus vite. C'est la samba des satellites. Crois pas peur des météorites.
Moi je m'en moque de la technique. Ce qui me plaît c'est de faire bip, bip sur l'Asie, bip sur l'Afrique. Y'a que ça qui m'excite.
Je crois que l'ancienne génération, tu tombes dans la révolution. Révolution. Dis-moi qui suis géostationnaire. J'ai l'Europe pour l'univers.
Nous avons vu sur Betelgeuse des femmes nébuleuses, sur Cassiopée et sur Pluton une méduse. Oh. Chacun gravite sur son orbite, et c'est ce qui va le plus vite. C'est la samba des satellites. Prends pas peur d'elle. C'est la rumba des satellites. Prends pas peur d'elle. Météorite.
Satellite, extrait du Regard de lancée de François Ribach sur un texte d'Hervé Le Tellier avec au chant Marie Grenon, Eva Schwab et Ken Norris. C'est un enregistrement de 1999.
France Musique, Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'écrivain Hervé Le Tellier est l'invité de Musique et moi ce matin et on note déjà une fascination pour l'astrophysique dans ce livret d'opéra que vous avez écrit sur lancée. Qui est dans la mythologie grecque, le pilote du navire Argo lors de l'expédition des Argonautes. On pourrait même y voir un décor qui rappellerait étrangement l'anomalie. Je fais un lien que vous n'aviez peut-être pas fait jusqu'à maintenant. Quelles contraintes vous avez posées, François Ribach? Ou peut-être c'est vous qui avez posé des contraintes à François Ribach, c'est peut-être dans le
sens. J'écrivais les textes avant lui, donc je n'étais pas fixé par une musique donnée. Et en l'occurrence, on avait un cahier des charges, qui était le cahier des charges d'une narration, et je m'étais imposé des songs, ce qui lui convenait tout à fait. Il y avait une chanson sur les satellites, qui est celle qu'on vient d'écouter, et qu'il était amusant de traiter comme une sorte de... Enfin, on imaginait les satellites comme très solitaires, se croisant de temps en temps, et heureux de se croiser, et se chantant des petits moments de joie, l'un qui est au-dessus de l'Europe, géostationnaire et qui n'a que ça comme univers, les autres qui perdent des boulons, enfin tout ce qui arrive à un satellite moyen en fait. Donc c'était très amusant à composer. J'ai travaillé avec François sur plusieurs opéras, dont un qui était sur un film expressionniste d'Istrasse. Et ça a toujours été une expérience très intéressante de travailler avec un musicien. C'est quelque chose que les auteurs font rarement, sauf à l'occasion de chansons, mais dans le lyrique, c'est quelque chose de très spécial.
Qu'est-ce qui est spécial ?
Ce qui est spécial, c'est que on travaille pas ensemble. Dans une chanson, souvent, l'un est au piano, joue, l'autre compose, on essaye, on teste. On peut pas vraiment faire ça dans le travail du lyrique, où il y a on voit bien que la musique qui est proposée par François Ribach est une musique très très composite, qui d'ailleurs rappelle un peu le baroque par pas mal d'éléments. Et il a besoin d'un texte entièrement finalisé, très peu mobile. Donc on essaie de s'approcher au mieux de ce qui va lui l'inspirer. Enfin, c'est en tout cas la manière dont on travaillait, et c'est pas toujours évident.
Est-ce que la rythmique est toujours présente quand vous écrivez ?
Parfois je la casse. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente, et puis au bout d'un moment, je me dis, tiens, j'ai fait 5 alexandrins de suite, il faudrait peut-être arrêter, et je transforme les choses. Il y a toujours, en tout cas, une musicalité de la phrase, qui n'est pas forcément celle du lecteur, parce que parfois, on se prononce inconsciemment le E muet, il n'est pas prononcé, et puis, il y a aussi non seulement de la rythmique, mais également de la rimique, enfin, on se rend pas compte, mais parfois, on introduit des consonances qui vont disparaître dans les traductions et on se rend compte à lire la traduction que tiens, quelque chose a disparu et on se rend compte que ce qui a disparu c'était quelque chose qu'on avait mis inconsciemment dans le texte qui était une rythmique ou une rimique. Et ça c'est la règle du jeu, c'est-à-dire...
Est-ce que le fait d'avoir baigné dans l'anglais vous a fait entendre le français différemment ?
Oui, même parfois j'ai des anglicismes qui me viennent naturellement, j'ai du mal à savoir dans quel ordre mettre une phrase... Et ça m'arrive souvent de devoir déplacer des compléments de mots, par exemple. Parce que j'ai pas mis mon complément de mot bon endroit.
L'adverbe au bon endroit ?
L'adverbe au bon endroit. Par rapport à un français classique. Et si je le laisse dans ce français inhabituel qui peut être celui qui jaillit sous mon clavier, ça ne va pas. Donc je recompose.
Hervé Le Tellier, si votre roman L'Anomalie était adapté en film ou en série, parce qu'on en sent bien dans la structure du livre, l'écriture d'une série, des personnages très caractérisés, des épisodes qui ouvrent sur une suite qu'on veut avidement connaître, ou connaître avidement, dans quel sens, et qui nous échappe si on n'est pas tout le livre, vous plantez des idées, vous récoltez un peu plus tard, ça s'appelle le plant et le payoff dans le jargon scénaristique.
C'est vrai.
Quelle serait la bande-son de ce film? Peut-être le prélude de Tristan?
Thank you.
Le prélude de Tristan et Isolde par l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Laurine Mazel. Hervé Le Tellier, est-ce que l'ouverture d'une œuvre comme celle de l'opéra de Tristan et Isolde peut se comparer à une ouverture de livre? Est-ce qu'il faut happer l'auditeur ou le lecteur à la première phrase? Et que pensez-vous d'ailleurs de la façon dont Wagner installe l'atmosphère? Êtes-vous sensible à cet accord de Tristan, fameux accord énigmatique, trouble, qui ouvre à tant de résolutions harmoniques?
Alors ce prélude pour moi est marqué depuis maintenant une dizaine d'années par un film qui est Mélancolia de Lars von Trier. Et le prélude, effectivement, est aussi le prélude du film. Il a fait une harmonie totale entre les deux, décidant même de prendre le mot prélude pour l'ouverture de son propre film. Et cette musique est vraiment associée à ça, au point que j'irais pas jusqu'à dire que je regarde la lune en entendant le prélude de Tristan et Isolde, mais pas loin. C'est assez rare qu'une telle réussite soit présente au cinéma, de trouver exactement la bonne musique. Parfois, on se dit que c'est exactement la bonne musique, mais c'est le fruit d'un hasard. Je pense à Stanley Kubrick qui décide de mettre une valse de Strauss sur la rotation permanente de sa station spatiale, alors qu'on sait que c'est juste une sorte de coïncidence liée au hasard. Là, dans le film de Lars von Trier, il y a un vrai travail de cette nature, et quand j'ai entendu le prélude au début du film, je me suis dit, mais quel formidable choix. Effectivement, c'est incroyable. Alors, après, c'est vrai que je suis plus, j'aime plus Tristan et Isolde que Le Ring, par exemple, chez Wagner. Et je pense à la phrase de Woody Allen, quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Ça ne me fait pas ça du tout pour le prélude de Tristan et Isolde.
Alors, on entend dans ces premières notes de Tristan un fa. Un fa joué au violoncelle. Et tiens, je relève cette incidence parce que vous parlez et vous évoquez la note fa jouée par des contrebasses à la toute fin de votre livre. On ne va pas tout divulgâcher, comme on dit. Mais vous entendez cette note fa dans un moment de silence quasi primordial, dans le souffle qui précède un événement fondamental. Pourquoi cette note? Vous savez?
Oui, enfin, je sais pourquoi je le mets là particulièrement. C'est que je pense à un fa de contrebasse très précis dans une œuvre que j'avais écoutée il y a très longtemps. Voilà, je vais pas dire la note parce que l'œuvre, je vais pas le dire parce que c'est vraiment très lié à un souvenir incroyablement personnel que je partage avec quelques amis. Pardon. Ce fa, pour moi, il évoque vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la finitude du deuil, enfin. Et donc je l'ai mis là parce que ça me paraissait être la fin du livre et que ça me paraissait représenter aussi dans le livre un moment crucial de basculement. C'est bien sûr la fin, mais c'est pas seulement une fin qui s'achève sur autre chose qu'un sablier qui se retourne. Et donc ce retournement du tablier, cette présence du temps, je la voulais à ce moment-là. Et donc pour moi, le fa de contrebasse, c'est exactement ça. Il se trouve que dans ce morceau auquel je pense, il est très long, c'est un très long fa, et je l'ai entendu une fois dans des circonstances très spéciales, et il m'est resté. J'ai pas du tout l'oreille absolue, hein, donc ça serait un sol de contrebasse, pour moi ça serait pareil, je trouve que c'est un fa.
Thank you.
Nous voici assemblés autour du monolithe noir, tel des primates, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, dirigé par Stanley Kubrick. C'est l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, dirigé par Francis Travis. Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 mars 2021, Hervé Letellier. Dans 3 jours.
Dans 3 jours, oui.
Selon votre prophétie dans l'anomalie.
Dans 3 jours décolle théoriquement un avion dont le destin est aléatoire. Voilà.
Aléatoire,
oui,
c'est ça que vous diriez.
Oui, je dirais que c'est ça.
un avion qui part de l'aéroport de Paris, atterrit à New York, et dont les passagers pourraient bien ressurgir quelques mois plus tard,
plus tard, 106 jours plus tard,
avec la même candeur ou le même espoir que ceux qui les habitaient au mois de mars. Est-ce que Ligeti est une bonne son
Ah, moi j'adore Ligeti. Enfin, je trouve que c'est pas un hasard si Stanley Kubrick le fait tout le temps travailler ou le choisit pour illustrer ses films. Je pense en particulier aussi non seulement à 2001, mais beaucoup plus tard à Eyes Wide Shut, dans lequel on retrouve encore du Ligeti. Oui, il y a un travail sur la voix humaine qui est tout à fait spécifique et qui fait que c'est presque un instrument. Et je trouve ça formidable. Voilà. À chaque fois, je suis surpris par ce que fait Ligeti. Il y avait une musique de Ligeti aussi qui m'avait frappé, c'était Musica Ricercata, enfin, dans laquelle il travaille sur une seule note et uniquement sur la rythmique de cette note sur un piano. Je trouve ça absolument.
Qui est repris dans Eyes Wide Shut.
Qui est repris dans Eyes Wide Shut, oui.
Alors, s'il y a bien une production qui replie le temps passé, qui donne à Rameau une pulsation nouvelle, c'est celle qu'en a fait Clément Cogitor et Bitou Diembélé à l'Opéra de Paris. Je vous m'avais dit que vous vouliez écouter Les Forêts paisibles de Rameau, précisément à cause de...
Non, pas à cause de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'ai presque redécouvert à l'occasion de la petite vidéo qu'avait fait Clément Cogitor et qui a été ensuite adaptée, je crois que c'était en septembre 2019, donc à un moment pré-confinement. J'avais eu la chance de le voir à l'Opéra de Paris, enfin à l'Opéra Bastille, et je trouvais cette idée merveilleuse de faire intervenir des danseurs de crump, cette street dance américaine dans laquelle la violence est exorcisée pour devenir autre chose, sur cette musique qui est une musique de rencontre entre deux civilisations. Et le calumet de la paix, enfin l'air du calumet de la paix, qui est l'air de la fin des forêts sauvages.
Forêts paisibles.
Les sauvages. C'est un moment, c'est un des plus beaux moments de l'opéra et c'est sa fin. Et il y a cette rencontre entre les deux civilisations, le conquistador d'un côté, les Indiens de l'autre, qui est évidemment très mythifié par rapport au réel de ce qu'a pu être la conquête des Amériques, mais qui est en même temps terrible d'humanité, quoi. Et c'est très 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 beau. Et il y a ce phénomène aussi de, je crois, dans les forêts paisibles, qui est que l'amour dépasse les questions de civilisation, puisque c'est quand même une femme qui doit choisir entre deux conquistadors, et puis qui finalement choisit son propre amoureux, et donc qui refuse d'être asservie à un destin diplomatique. Et il y a quelque chose de très universel dans ça.
Thank you.
Un des immenses succès de 2019 pour oui. l'Opéra Bastille. Ils avaient pris la Bastille cette année-là.
Oui,
Sabine Devielle, Florian Sempé, et sur la chorégraphie de Bintou Dembélé. Alors Hervé Letellier, Rameau ou Ligeti pour une bande-son de l'Anomalie? Pardonnez-moi, mais j'insiste.
De manière provocatrice, je répondrais peut-être Rameau pour avoir... Bon, Ligeti s'y prêterait mieux, ce côté... la polyphonie, l'usage presque abstrait des sons, des voix humaines, c'est très tentant. Et en même temps,
et la référence à Kubrick.
Et la référence à Kubrick, bien entendu, au monolithe, à toute une série de choses qui font partie de notre univers mental. Et en même temps, on se dit pourquoi pas effectivement une musique comme celle de Rameau, comme les Indes Galantes, qui nous emmènerait totalement ailleurs et qui créerait une distorsion. Parce que quand même, l'idée de l'anomalie, c'est la distorsion, la dystopie, la rupture, et parfois créer un choc, qui est un choc presque spatio-temporel entre deux époques, ça peut être intéressant. Donc je pense que le choix de prendre une musique de quasiment trois siècles plus ancienne, ça peut être un joli choix. Et vraiment, la fin des Indes Galantes, ça reste un moment... incroyablement puissant, quoi.
Il y a quand même une musique citée, nommée dans votre texte, l'Anomalie. C'est The Girl from Ipanema.
Oui.
Pour quelle raison?
J'ai évidemment un souvenir de l'astro Gilberto en train de chanter cette musique. Et je trouvais que dans cette scène particulière de l'Anomalie, où ces deux femmes sont sur scène dans une émission de télé-réalité, c'était la rupture absolue, c'est-à-dire que dans la télé-réalité, il y a quelque chose qui est lors du questionnement, du dialogue, et d'un seul coup, la bossa nova, qui est une musique douce, qui est une musique, en l'occurrence ici, qu'on imagine très très bien comme étant une marche, c'est la marche d'une femme sur une plage, c'est la plage d'Ipanema, c'était là aussi une distorsion qui faisait qu'on sortait de la télé-réalité pour entrer dans un univers quasi poétique. En plus, on pouvait assez bien imaginer les lumières qui tombaient sur ces deux femmes pendant qu'elles chantent. Et je voulais proposer au lecteur un moment d'évasion dans le chapitre lui-même pour qu'on puisse voir tout ce qu'on peut faire au niveau presque littéraire avec une scène qui est un dialogue. Interrompre le dialogue, proposer autre chose et finalement restituer quelque chose qui est de l'ordre du télévisuel et de ce que la télévision fait parfois de bon. Dans un moment de littérature. Je pense que la littérature, elle a pour tout exprimer, y compris des scènes de télévision et de scènes de talk show.
Elle est longue d'ailleurs, cette scène.
Elle est très longue, parce que je veux qu'il s'y passe beaucoup de choses. Je veux qu'on voit comment se fabrique une émission de télévision. Je veux qu'on voit ce qui se passe dans la tête des animateurs. Et c'est aussi un moment où je biaise, c'est-à-dire que je passe par le moment de la télévision pour expliquer ce qui s'est passé au niveau technique entre le FBI... et les différents protagonistes de l'histoire. Et pour ne pas le faire de manière didactique, j'utilise ce moment de télévision pour que ça passe dans un dialogue. Souvent, ce sont des artifices. Et en l'occurrence, c'est un artifice purement de fiction et de narration. Mais ça me sert à ça. Et comme je trouvais ce moment un peu long, je voulais le rompre par un moment de chanson. Et j'ai trouvé que cette musique, qui pouvait être chantée à deux d'ailleurs, par deux femmes qui ont la même voix, puisque ce sont les deux mêmes, et qui sont sur scène à alterner, à chanter ensemble. Je trouvais ça assez joli à imaginer au niveau purement visuel, comme quelque chose qui serait vraiment une belle scène de télévision, comme il y en a parfois. Ding, 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 ding.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Her so sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see.
Voilà, nous n'avons plus qu'à embarquer dans le vol 006
c'est le meilleur. C'est celui où on parle presque quasiment vers l'après-midi. On arrive encore assez tôt pour avoir le Manhattan le soir.
Ah, c'est pour ça que vous avez choisi cet horaire-là.
Ouais, c'est un des meilleurs horaires.
Et alors, pourquoi 106 jours d'attente entre les deux vols?
Parce que c'est un jeu avec le dernier livre de Pérec qui est inachevé, qui s'appelle 53 jours. Et comme c'est une histoire de double, j'ai doublé. Donc 2 fois 53, 106 jours.
Alors est-ce que vous recommandez aux lecteurs qui pourraient acheter l'Anomalie d'écouter The Girl from Ipanema
pour cette lecture? Absolument. Et puis bien sûr aussi Fotografia e Voce, Na Mino Reflex, l'autre chanson, un peu d'ascenseur, il faut bien le dire.
D'attente en
D'attente,
tout cas.
D'attente, oui, oui, absolument.
D'attente entre deux mondes, entre deux vies. Merci beaucoup Hervé Le Tellier d'avoir été l'invité de Musique et Moi ce matin. Merci à Xavier Atto à la technique, Marie Grou à la réalisation, Marie Ferdinand attaché de production. À la semaine prochaine pour un nouveau Musique et Moi. Portez-vous bien.
À réécouter sur francemusique.fr.